Un regard approfondi sur les 10 actions non vertueuses. Les sections qui suivent examinent chacune des 10 actions non vertueuses. Les explications que nous donnons ici s'appliquent largement à toutes les traditions bouddhiques. N'oubliez pas. Tuer. Prendre la vie d'une autre personne, c'est de toutes les actions physiques celle qui a le plus de poids karmique. Dans le passage « Le vécu des conséquences du karma », plus haut dans ce chapitre, nous avons donné une liste de ce qui peut résulter d'un meurtre, en particulier s'il est exécuté de manière brutale sous l'influence d'une illusion puissante comme la colère. Bien que relativement rares, de telles actions violentes sont bien plus courantes que la plupart des gens ne voudraient l'admettre. Un coup d'œil dans votre journal quotidien n'illustrera que trop clairement ce point. Bien que le meurtre soit énuméré dans la liste des actions physiques, c'est-à-dire des actions que l'on fait avec le corps, on peut générer du karma négatif sans remuer le petit doigt. Par exemple, si vous commandez à quelqu'un d'autre d'exécuter pour vous le meurtre, vous encourez les conséquences karmiques complètes de l'action. La quantité de karma que crée la personne qui exécute l'ordre dépend de plusieurs facteurs, y compris dans quelle mesure elle participe volontairement à cet acte. N'oubliez pas. Même en cas de meurtre, donc d'action intentionnelle, le poids du karma ainsi créé et donc la lourdeur des conséquences karmiques que l'auteur subira plus tard dépend en grande partie de son état d'esprit. Plus l'illusion qui le motive est grande, la colère, la jalousie, etc., plus les conséquences sont graves. Prendre la vie de quelqu'un avec une grande répugnance en souhaitant en réalité ne pas y être obligé, c'est une chose. Mais tuer quelqu'un par haine et se réjouir de la souffrance ainsi causée, ça c'est bien plus grave. La qualité de la victime contribue aussi à déterminer la force du karma ainsi créé. Par exemple, tuer l'un de ses parents, c'est bien plus grave que de tuer un quelconque inconnu. La vie d'une personne donnée n'est pas en soi plus précieuse que celle d'une autre, mais en ce qui vous concerne vous-même et votre propre histoire karmique, vos parents occupent une place exceptionnellement importante, parce qu'ils ont fait preuve d'une gentillesse toute particulière envers vous, en vous donnant la vie. De même, tuer une personne très évoluée sur le plan spirituel, qui peut être d'un grand bénéfice aux autres, c'est un acte bien plus grave que mettre un terme à la vie d'un insecte. Attention! Ne croyez pas que le bouddhisme ferme les yeux sur certains types de meurtres parce que le poids karmique du meurtre peut varier en fonction des circonstances. Cela ne marche pas comme ça. Le Bouddha a enseigné l'amour et la compassion pour tous. Le système éthique qu'il proclame est fondé sur le principe qui consiste à causer aux autres le moins de tort possible. N'oubliez pas. Voler. Alors que c'est la haine qui motive souvent le meurtre, c'est le désir qui incite souvent les gens à voler, ou à prendre ce qui ne leur est pas donné. Pour être coupable de vol, vous devez dérober un objet de valeur qui appartient à quelqu'un d'autre. Prendre quelque chose qui n'appartient à personne et s'en servir, ce n'est pas considéré comme du vol, parce que personne ne subit de tort. Le vol peut se produire de très nombreuses façons différentes. Vous pouvez vous introduire dans une maison, voler une personne en la braquant ou arnaquer les gens au téléphone ou sur Internet. Tous ces types de vols ont une chose en commun. Elles causent du tort aux autres et à vous-même. Les gens que vous volez perdent leur argent ou leurs biens et vous faites face aux conséquences karmiques de vos actions. Par exemple, si vous escroquez quelqu'un dans un contrat d'affaires, vous pourriez avoir de grandes difficultés à trouver et à accumuler les conditions matérielles nécessaires dans la vie à l'avenir. De même que la richesse est le résultat de la pratique de la générosité, écoutez le chapitre 14, la pauvreté est le résultat karmique du vol d'autres dans le passé, même si ce passé s'est produit dans une vie antérieure. N'oubliez pas. De même que pour le meurtre, et pour toutes les actions non vertueuses, le vol dépend finalement de votre esprit. En voici une illustration. Imaginez que vous rendez visite à des amis chez eux et que vous emportiez par erreur son parapluie. Ce n'est pas un vol. Vos amis ne se rendent pas compte que leur parapluie a disparu. Vous ne remarquez pas votre erreur et le parapluie reste dans le placard pendant des mois. Bien que vous ayez le parapluie pendant des mois chez vous, vous ne l'avez quand même pas volé. Un jour, vous regardez dans le placard et vous vous rendez compte que vous avez un parapluie qui ne vous appartient pas. Vous pensez qu'il appartient à vos amis et vous décidez de le rapporter, mais vous n'en avez pas l'occasion. Ce n'est toujours pas du vol, bien que ce soit sans aucun doute remettre les choses au lendemain. Puis un jour, peut-être des mois plus tard, vous pensez « J'ai ce parapluie depuis longtemps et mes amis n'en ont pas parlé, ils n'en ont apparemment pas besoin, je vais donc le garder. » Dès l'instant où vous prenez la décision de garder ce qui ne vous appartient pas, vous avez pris ce qui ne vous a pas été donné et vous accumulez le karma du vol.
L'interprétation des préceptes. Bien que toutes les traditions bouddhiques s'accordent sur les 5 préceptes fondamentaux, les diverses écoles Mahayana s'accordent en outre sur 5 de plus. Toutes ces traditions interprètent de façon différente les 10 préceptes. Par exemple, le Theravada a tendance à en faire une lecture assez littérale et en exige une observation au pied de la lettre. Le Mahayana tend, lui, à prendre plus de recul et à concéder une certaine marge pour l'interprétation en fonction des circonstances. Le Vajrayana et le Zen adoptent une approche plus globale et multidimensionnelle. Voici un exemple typique du Zen qui a trait aux préceptes sur plusieurs niveaux. Au niveau relatif de ce monde, les préceptes servent de directives utiles pour l'action. Ce sont des règles qui aident l'adepte dans sa recherche du mode de vie éveillé. À un niveau plus profond, il se rapporte au contenu de son esprit autant qu'à ses actions physiques. S'il désire les biens de quelqu'un d'autre, il vole. S'il désire le corps d'une personne, il s'agit d'un comportement sexuel préjudiciable. Au niveau le plus profond, le dernier, le Zen interprète les préceptes comme étant une expression spontanée de la véritable nature et une description précise de comment une personne éveillée se comporte naturellement sans tenter de suivre aucune règle particulière. Par exemple, une personne complètement réalisée ne peut pas tuer, parce qu'elle ne voit pas que d'autres personnes sont séparées d'elle-même. Elle ne peut pas voler, parce qu'il n'existe rien qui ne lui appartienne pas. Et elle ne ment pas, parce qu'elle n'a pas de soi à défendre. Il s'agit à ce niveau-là d'un idéal auquel on peut comparer ses propres tendances et ses propres comportements pour évaluer la clarté de sa propre compréhension.
N'oubliez pas, une conduite sexuelle préjudiciable. La conduite sexuelle préjudiciable est la dernière des 3 actions négatives du corps. Écoutez le passage, l'organisation de ces préceptes suivant 3 portes plus haut pour la liste des catégories. Et elle concerne essentiellement le viol et l'adultère. Mais dans une perspective élargie, elle peut aussi se rapporter à un usage irresponsable de la sexualité, comme le fait de changer souvent de partenaire ou d'être accro du sexe, par exemple. Il est clair que le viol et les autres formes de violence sexuelle infligent un grand dommage aux victimes. Un dommage qu'elles ressentent parfois jusqu'à la fin de leur vie. Les besoins sexuels insatiables sont peut-être moins destructifs, mais ils infligent souvent des douleurs émotionnelles aux différents partenaires concernés et volent à la personne, accro du sexe, un temps et une énergie précieux qu'elle pourrait employer à des entreprises plus constructives dans sa vie. Des études récentes montrent que les personnes qui commettent des violences sexuelles furent elles-mêmes victimes de sévices dans leur enfance. Les sévices sexuels constituent véritablement un mal qui a tendance à se reproduire, et il n'est point nécessaire d'avoir la clairvoyance du Bouddha pour comprendre ça. Le Bouddha ajouta pourtant quelque chose au sujet de ce cercle vicieux qui n'est pas aussi évident que cela à comprendre. Les résultats karmiques des actes de violence sexuelle incluent que l'on en fait soi-même l'expérience à l'avenir. Autrement dit, bien que les victimes de sévices sexuels puissent ou non plus tard devenir elles-mêmes des coupables, la plupart ne le deviennent pas, le coupable de l'acte sera sans le moindre doute à son tour la victime à l'avenir de sévices sexuels à cause de sa propre transgression, à moins qu'il n'arrive à éliminer cette tâche karmique. Écoutez le passage « Les moyens de purification du karma négatif » à la fin de ce chapitre. L'adultère entraîne aussi une bonne portion de douleur pour les personnes concernées, leur famille et la société dans son ensemble. Bien que les normes culturelles varient considérablement d'un pays à l'autre, ce qui est accepté dans un pays est peut-être interdit dans d'autres, le comportement sexuel entre deux êtres devient une conduite préjudiciable lorsqu'il revient à prendre ce qui n'est pas donné sans contrainte. Si vous trompez votre conjoint, ou si vous êtes responsable de l'affaiblissement ou de la rupture d'un autre couple marié, vous ferez probablement l'expérience du manque d'harmonie ou de l'infidélité sexuelle dans vos propres relations conjugales, dans la présente vie ou dans les vies futures, qui seront les conséquences karmiques de ce comportement. N'oubliez pas le mensonge. Mentir, cela signifie que vous trompez sciemment quelqu'un en disant une chose que vous savez pertinemment fausse. Le fait de simplement prononcer une affirmation erronée, ce n'est pas mentir. Il faut que vous ayez l'intention que la personne croie que vous dites la vérité. Le mensonge va des tromperies de masse que tente souvent de réaliser la propagande politique aux petits mensonges et aux pieux mensonges que l'on peut dire pour se tirer de situations sociales embarrassantes. Il n'est même pas nécessaire de dire quoi que ce soit pour s'engager dans une action négative comme celle-là. Un acquiescement ou un geste peut autant induire en erreur que des paroles mensongères. L'un des principaux problèmes du mensonge, c'est qu'il oblige souvent le menteur à dissimuler ses traces et à mentir encore davantage. Bientôt, il se rend compte qu'il a accumulé tant de mensonges que son histoire ne tient plus debout et qu'il s'expose à la honte d'être découvert. Peut-être reconnaissez-vous ici la trame de nombreux sitcoms. N'oubliez pas, les résultats des mensonges peuvent même être pires que l'embarras momentané. Pour certains, mentir devient partie intégrante de leur mode de vie. Ils mentent comme ils respirent, et ils n'arrivent plus à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme s'ils avaient été absorbés par leur propre tromperie. D'un point de vue karmique, le Bouddha a dit que la conséquence du mensonge est que l'on ne vous croira plus, même si vous dites la vérité. Parfois pourtant, vous vous trouverez peut-être dans une situation dans laquelle il ne serait pas judicieux de dire la vérité pure et simple. Par exemple, si vous savez qu'un homme en colère avec une arme à feu veut en tuer un autre, caché derrière un rideau, devrez-vous lui répondre sans mentir lorsqu'il vous demande où se trouve celui qu'il veut tuer ? Bien sûr que non. Vous savez qu'une réponse complètement sincère aura pour résultat un meurtre, ce qui est bien plus grave que la simple dissimulation de la vérité, et vous pouvez donc l'induire en erreur sans produire les conséquences karmiques du mensonge. Si vous pratiquez la compassion, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour empêcher que le meurtre ne se produise, mais vous devez veiller à ce que votre motif de ne pas dire la vérité soit la compassion pour tous ceux qui sont impliqués, c'est-à-dire pour le meurtrier potentiel comme pour la victime potentielle. Non seulement vous voulez sauver une vie, mais encore empêcher l'homme armé de récolter davantage de karma négatif qu'il devrait expier à l'avenir. N'oubliez pas les paroles qui sèment la discorde. Il s'agit ici des choses que l'on dit pour rompre une amitié entre d'autres personnes ou pour empêcher des gens de revenir sur leurs décisions après avoir rompu. Plusieurs raisons différentes peuvent motiver un comportement aussi perturbateur. Par exemple, une personne jalouse de la relation intime d'un couple pourrait essayer de la saboter en vue d'en tirer personnellement profit. Les paroles peuvent semer la division, que ce qui est dit soit vrai ou faux. Si votre intention est de séparer des personnes ou d'empêcher une réconciliation, vos paroles tombent dans la catégorie des paroles qui causent la discorde, même si ce que vous dites est vrai. Un des résultats de cette action négative, c'est que vous aurez des difficultés à trouver des amis et des compagnes ou compagnons à l'avenir. Conseil. L'un des cas les plus évidents dans lequel causer la mésentente entre plusieurs autres personnes, c'est lorsque celles-ci projettent de perpétrer un crime ou d'exécuter une autre action nuisible. Si vous arrivez à briser leur conspiration et à les empêcher de créer des problèmes aux autres et à eux-mêmes, vous agissez avec bonté. Mais vos intentions doivent être très claires. N'oubliez pas les paroles dures. Les paroles dures désignent les choses que l'on dit pour faire de la peine à quelqu'un. De même que les paroles de discorde, ces insultes peuvent être vraies ou fausses. L'intention de celui qui les prononce est de rabaisser, d'embarrasser ou de fâcher quelqu'un. Les conséquences karmiques de ce type de paroles, comme vous l'avez peut-être deviné, sont que celui qui les profère sera lui-même l'objet de violences verbales à l'avenir. Aux États-Unis, il existe un genre d'humour qui fonctionne sur l'insulte des autres. L'idée d'une « celebrity roast », littéralement « vedette sur le grill », ce type de soirée ou d'émission en l'honneur d'une vedette et dans laquelle celle-ci fait l'objet de flatteries et de taquineries, consiste par exemple à jeter le plus de piques insultantes possibles à l'invité dans le temps le plus court. Personne n'est censé se vexer dans ce genre d'histoire, et on attend de l'invité qu'il ou elle sourit plus fort que tout le reste du plateau. Mais parfois, il arrive que la vedette prenne mal les choses, et les choses peuvent alors rapidement dégénérer. Attention ! Comme les mots transportent souvent plus de poids que l'on a l'intention de leur donner, et qu'ils peuvent causer plus de dommages que l'on ne peut se l'imaginer, faites attention à ce que vous dites. Car une fois que vous aurez pris l'habitude d'insulter les autres, il sera plus facile de contrôler vos paroles. Vous n'êtes peut-être pas conscient de l'agression qui se trouve en vous, mais elle donne quand même un pouvoir inattendu aux mots que vous proférez, juste pour rien. N'oubliez pas les propos futiles, le bavardage. Les futilités constituent la dernière des actions négatives par la parole. Par leur nature, les propos futiles sont moins graves que toutes les autres actions du corps ou de la parole mentionnées dans cette section. Le problème pourtant, c'est qu'ils représentent de loin la perte de temps la plus importante. Ces propos futiles incluent tous les types de paroles frivoles et ils peuvent concerner absolument n'importe quoi. Certains les appellent diarrhées verbales, logorrhées. Et comme les paroles dures, il s'agit d'une habitude qu'il est facile de prendre et dont il est difficile de se débarrasser. Si vous consacrez votre temps et votre énergie à parler de futilité, les autres finiront par considérer que ce que vous dites n'a aucune importance et ils cesseront de vous prendre au sérieux. N'oubliez pas l'avidité. Voici maintenant les trois actions négatives de l'esprit lui-même, à commencer par l'avidité ou le désir de posséder ce que l'on n'a pas. Même si l'on ne cède pas à cette impulsion, le fait de regarder les biens des autres de cette manière avide crée des difficultés à l'esprit, à commencer par l'agitation. Puis, lorsque le désir de posséder un objet particulier devient suffisamment puissant, des problèmes encore plus grands surgissent. Par exemple, si quelqu'un crève vraiment d'envie de posséder un objet donné, cette personne pourrait le voler, ce qui entraînerait encore plus de conséquences karmiques. N'oubliez pas. La convoitise est un état d'esprit non content, insatisfait. Ce qui alimente cet état d'esprit chez quelqu'un, c'est l'espoir, qui souvent reste diffus et n'est pas exprimé consciemment, d'être enfin heureux lorsque cette personne possédera tel ou tel objet attrayant donné. Mais comme l'enseignement bouddhiste ne se lasse pas de le répéter, il est impossible d'obtenir la satisfaction en courant après les différents objets des sens, aussi attrayants puissent-ils sembler. Écoutez le chapitre 2. Si vous ne réussissez pas à acquérir l'objet de vos désirs, vous allez vous sentir non satisfait. Et même si vous réussissez à l'obtenir, cet objet va nécessairement ne pas être à la hauteur de vos attentes exagérées. Puis, comme l'eau salée, au lieu d'étancher votre soif, cet étrange objet du désir ne va faire que l'augmenter. De cette manière, vous n'allez vous attirer que davantage d'insatisfaction.
La folle sagesse ou vertu de la transgression des préceptes. Bien que le bouddhisme en général ait constamment fait respecter les normes éthiques les plus élevées, en particulier aux membres de la communauté monastique, certaines traditions glorifient aussi leurs rebelles et leurs saints fous, qui transgressent les conventions afin d'enseigner à travers leurs exploits mêmes. Cette approche peu orthodoxe est appelée en Occident la folle sagesse. Au Tibet, par exemple, les aventures de Drukpa Khunle, un yogi vagabond qui enseignait le dharma en buvant de la bière avec des paysans et en couchant avec des prostituées, sont légendaires. Et au Japon, les exploits tout autant outranciers du maître de zen Ikkyu, qui dirigeait aussi l'un des monastères les plus en vue de l'époque, ont acquis une notoriété semblable. D'habitude, ces bodhisattvas, êtres d'éveil, ont acquis la vision profonde, non duale, qui considère que tout est sacré, y compris les activités comme boire de l'alcool et avoir des rapports sexuels extra-conjugaux, souvent considérés comme inadmissibles par les normes religieuses traditionnelles. En violant les préceptes tout en gardant cependant à l'esprit cette perspective plus large, ils adhèrent en réalité à l'esprit plus élevé de ces préceptes, dont le but premier est de favoriser l'éveil et non de poser de quelconque norme absolue de ce qui est bon ou mauvais. Malheureusement, la tradition de la folle sagesse a été mal comprise, entre autres parmi certains instructeurs du bouddhisme en Occident. Nombre de ces instructeurs ont été impliqués dans des scandales mettant en cause leur conduite, qui constituait un manquement sévère à l'éthique et qui causait du tort à leurs disciples et à l'ensemble même de la collectivité. Leurs exemples, qui servent désormais d'avertissement, montrent amplement que seuls les plus grands bodhisattvas peuvent s'aventurer sur le terrain de la folle sagesse. Car sinon, celle-ci ne fait que dégénérer en une conduite nuisible et égoïste.
Conseil. Comme la convoitise est une activité purement mentale, elle est plus difficile à contrôler que les actions physiques et verbales qu'elle entraîne. Pour contrecarrer cette attitude mentale perturbatrice, vous devez vous familiariser avec différentes façons de voir les choses. Vous devez apprendre à méditer. Écoutez le chapitre 7 à ce sujet. Vous devez aussi vous entraîner à voir que les choses que vous désirez ne sont pas aussi durables ni aussi attrayantes en soi que vous ne l'imaginez. La malveillance. Cette attitude mentale destructive se cache derrière de nombreuses choses que l'on peut dire ou faire dans le but de nuire à d'autres. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit malfaisant, vous prenez plaisir au malheur des autres en souhaitant activement qu'ils souffrent. La malveillance est l'opposé exact de l'amour, qui est le souhait que les autres soient heureux. Comme c'est le cas pour la convoitise, il est plus difficile de contrôler ce type d'intention néfaste que de contrôler les actions verbales et physiques plus manifestes qui en découlent. Pour garder avec succès cette attitude en échec, vous devez vous entraîner à voir les autres comme des personnes qui méritent votre respect, vos soins, votre amour. Au lieu de vous concentrer sur des aspects qui entretiennent votre malveillance, familiarisez-vous avec les qualités des autres jusqu'à ce que votre cœur s'ouvre à eux avec compassion. Conseil. En réalité, pourtant, vos sentiments négatifs envers quelqu'un seront parfois si forts et si vivaces qu'il vous sera impossible de les transformer par la méthode que nous venons de proposer, du moins pour le moment. Dans ce cas, la meilleure solution sera probablement d'oublier la personne contre laquelle vous êtes en colère et de diriger votre attention sur le sentiment de malveillance lui-même. Comme un scientifique examinant un serpent venimeux, observez cette émotion destructrice aussi soigneusement et aussi objectivement que vous le pourrez. N'y cédez pas, ne suivez pas son injonction et ne vous mettez pas à crier ni à vous battre. Mais n'essayez pas non plus de la faire disparaître. Contentez-vous de l'observer. En observant sans passion votre malveillance, vous allez découvrir que, comme tous les sentiments, cette émotion négative n'est pas aussi durable qu'elle ne semble l'être. Comme une vague qui surgit de l'océan pendant une minute et qui retombe à la suivante, la malveillance surgit dans votre cœur, y reste un court moment et disparaît à nouveau. Il est possible qu'une vague semblable s'élève à son tour et prenne sa place, mais elle aussi finira par disparaître. Si vous arrivez à prendre du recul et à simplement observer ce processus, semblable d'ailleurs à la technique d'observation de la respiration que nous expliquons au chapitre 7, vos sentiments négatifs s'éteindront finalement d'eux-mêmes. Les vues fausses. Bien qu'il soit possible d'avoir de nombreuses idées erronées sur beaucoup de choses, les vues erronées dont nous parlons ici ont un sens spécifique. On a une vision fausse lorsque l'on renie activement la réalité ou l'existence de choses qui sont vraies. Par exemple, selon le bouddhisme, le triple joyau formé par le Bouddha, le Dharma et le Sangha constituent des guides fiables en lesquels on peut placer sa foi et sa confiance. En outre, La loi karmique dont nous avons donné les grandes lignes dans ce chapitre est vraie. Les actions ont véritablement des conséquences, non seulement dans cette présente vie, mais aussi dans les vies ultérieures. Lorsque l'on nie ces choses, c'est le signe que l'on adhère à des vues fausses. Dans ce contexte, avoir une vue fausse ne signifie pas douter de l'enseignement du Bouddha sur le karma et sur le reste, ni simplement ne pas le connaître. Cela veut dire que l'on affirme activement qu'il est faux. Par exemple, si vous voulez vraiment commettre une action non vertueuse donnée comme l'adultère, vous pourriez essayer de vous convaincre vous-même et l'autre personne qu'il n'y a pas de mal à ça. En outre, pourriez-vous ajouter « personne ne le saura et donc cela ne fera de tort à personne ». Dans cet exemple, ce que vous essayez en fait de faire, c'est d'excuser votre mauvaise conduite en vous faisant l'avocat d'une vue qui défie l'enseignement du Bouddha sur la cause et les faits. Soutenir des vues fausses, cela entraîne de graves erreurs. C'est pour cela que cette action non vertueuse de l'esprit est si dangereuse.